Alléluia. Seigneur de gloire, tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et nous savons, Seigneur de gloire, que ce matin nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas orphelins, Seigneur. Car tu es au milieu de nous, Seigneur de gloire. Et bien plus encore, Seigneur, tu es en nous. Seigneur, ce matin, que tout soit fait pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, nous nous humilions devant toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur de gloire. Toi qui connais, Seigneur de gloire, nos cœurs. Tu sais ce dont nous avons besoin et ce matin, nous voulons être à ta disposition. Que toute œuvre des ténèbres soit nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. Que ta souveraineté, Seigneur Dieu de gloire, soit établie encore au milieu de nous ce matin. Sois béni, Seigneur, toi qui règnes au siècle des siècles. Amen. Nous prenons la parole de Dieu dans l'évangile de Luc au chapitre 10. Luc chapitre 10 et ensuite nous lirons dans la deuxième épître à Timothée. Luc chapitre 10. Luc 10, nous lisons à partir du verset 17. Cela fait suite à les disciples, en fait, vont faire le rapport au Seigneur de la mission dans laquelle il les avait envoyés. Il leur avait dit d'aller faire l'œuvre du Seigneur, de purifier les lépreux, de ressusciter les morts, d'annoncer l'évangile. Et au verset 17, il est écrit, « Les 70 revinrent avec joie. Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Amen. La deuxième épître à Timothée, chapitre 4, 2 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 1er, pour rester dans le contexte. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. » Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. L'avènement, c'est le retour du Seigneur, la seconde venue du Seigneur, lorsqu'il reviendra chercher ses élus, chercher ceux qui auront persévéré dans la saine doctrine. C'est ce que l'apôtre Paul veut dire lorsqu'il dit « ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur ». L'amour pour le retour du Seigneur nécessite obligatoirement une préparation. Si nous aimons le retour du Seigneur, si nous aimons cette promesse qui sera pour nous un jour de joie, un jour de bonheur, parce que ce retour du Seigneur sera simplement synonyme de fin de souffrance, plus de deuil, plus de pleurs, plus de chômage, plus de canicule. Donc ça sera vraiment un jour de joie, un jour de fête pour les enfants de Dieu, les véritables enfants du Seigneur. Et l'apôtre Paul exhorte Timothée à faire le travail comme il doit bien le faire. Et il finit par dire que, en ce qui me concerne, moi j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. j'ai combattu le bon combat. Ça veut dire que on peut combattre le mauvais combat. On peut simplement se tromper d'objectif, même en servant le Seigneur. On peut être véritablement à côté de ce que le Seigneur attend de nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul, lorsque dans l'épître aux Corinthiens, il parle de l'amour, il dit qu'on peut même donner sa vie, mais si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. On peut donner l'argent aux pauvres, on peut faire toutes sortes de pratiques qui semblent faire du bien aux autres, mais si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. Ça veut dire qu'en apparence, on peut faire des choses qui peuvent être de bonnes choses, mais on peut le faire sans véritablement avoir l'amour de Dieu. Il y a beaucoup de païens qui font des choses extraordinaires, qui prennent de leur temps pour se retrouver dans des pays où il y a la disette, où il y a des catastrophes naturelles, pour se mettre au service, entre guillemets, de l'humanité. Mais ils ne le font pas à cause de l'évangile. Ils ne le font pas à cause de l'amour selon Dieu. Ils le font selon leur amour, selon ce que eux semblent voir comme être juste. Mais toutes ces œuvres qu'ils font ne vont pas les qualifier pour le ciel. C'est pas parce qu'ils auraient donné toute la nourriture aux pauvres que le Seigneur va les accueillir dans son royaume. Donc on peut faire des choses extraordinaires et à la fin se retrouver derrière la porte du royaume de Dieu, se retrouver tout simplement du mauvais côté. C'est pourquoi l'apôtre dit « J'ai combattu le bon combat ». C'est-à-dire que j'ai servi le Seigneur, mais j'ai gardé ce qui est essentiel, c'est-à-dire la foi. Le Seigneur dit « À quoi ça sert un homme de gagner tout le monde si lui-même perd son âme ? À quoi cela aura-t-il servi ? De se mettre même au service de l'Église, de se mettre au service des humains, si nous-mêmes nous finissons en enfer, ça n'aura servi à rien. Car combien même nous savons que la volonté de Dieu est de sauver toute l'humanité, la réalité, c'est que nous qui sommes les instruments de Dieu, c'est que le Seigneur veut aussi nous sauver. Le Seigneur ne veut pas nous utiliser, comme on dirait aujourd'hui en français, comme on presse un citron, et une fois qu'il n'y a plus de jus, on le jette. Ce n'est pas ça la volonté du Seigneur. Il veut nous faire participer à sa gloire, mais le plus important, c'est qu'il veut que nous entrions aussi dans cette gloire éternelle. Mais cela nécessite que nous puissions combattre le bon combat, c'est-à-dire ne pas oublier ce qu'il y a d'essentiel, même si nous sommes engagés dans l'œuvre de Dieu, même si nous sommes engagés dans le service pour le Seigneur. Et c'est ce qu'il va rappeler à ses disciples dans le passage que nous avons lu dans un premier temps, qui nous montre que les disciples reviennent de la mission avec la joie. Ils viennent de la mission avec une entière satisfaction parce qu'ils ont contemplé l'autorité du nom de Jésus. Ils disent, même les démons nous sont soumis en ton nom. Ils ont expérimenté la puissance qu'il y avait dans le nom de Jésus-Christ et c'est ça qui a réjoui leur cœur. Ils ont vu la gloire, les démons être soumis. Ils ont vu les démons être chassés. Et le Seigneur va les rappeler à ce qui est essentiel. Va les rappeler à ce qui fait partie du bon combat. Gardez ce qui est essentiel, comme l'apôtre Paul l'a dit. Il dit, c'est bien, les démons vous sont soumis, d'accord. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est que vos noms soient écrits dans le livre de vie. Le plus important, c'est que vous vous mainteniez dans le salut. Le plus important, c'est que le jour où je reviendrai, eh bien, je vous trouve sans tache, avec des vêtements propres. C'est ça qui est important. Dans le livre de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, il dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu. Il dit, certains diront, mais Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom. Nous t'avons servi, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Le Seigneur dit, je vous dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Ceux qui entreront dans le royaume de mon Père, ce sont ceux qui mettent la parole en pratique, ceux qui font sa volonté. Donc on peut servir avec des œuvres, on peut servir visiblement et être disqualifié à la fin. Même si nous sommes engagés dans l'œuvre du Seigneur, ce qui est important, c'est de garder ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est le salut. Le salut ne se gagne pas par un mérite particulier parce que nous aurons fait des œuvres particulières qui vont toucher le cœur des humains, qui vont nous élever dans la société. Mais le salut, nous le gardons en étant l'homme que le Seigneur veut que nous soyons tout simplement. En étant un homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu, ce n'est pas celui qui est parfait. La perfection ne s'est trouvée nulle part ailleurs qu'en Jésus-Christ seul. Alors c'est sûr que lorsque nous regardons à l'unité de mesure par excellence qui est Jésus, non seulement nous sommes loin du niveau, mais nous ne l'atteindrons jamais. Pour la simple et bonne raison que nous avons déjà péché. Ayant déjà péché, le niveau de Jésus, nous ne l'atteindrons pas. Mais nous pouvons l'expérimenter chaque jour en consacrant notre vie au Seigneur. On peut l'expérimenter chaque jour en demeurant dans l'obéissance à la parole de Dieu. Même si la perfection de Dieu, telle que Jésus-Christ l'a manifestée, est trop haute pour nous, mais chaque jour nous pouvons l'expérimenter. Et lorsque nous acceptons que ce Jésus-Christ-là qui est venu vivre en nous, règne en nous, lorsque Dieu nous regarde, il ne nous regarde plus tel que nous étions autrefois. Il ne nous regarde plus comme des hommes charnels, mais il nous regarde comme s'il voyait son propre fils. Il nous regarde comme s'il voyait son propre enfant, le fils unique Jésus-Christ. C'est de cette manière-là que Dieu nous voit, lorsque la vue de Jésus-Christ est manifestée en nous. C'est lorsque cette vie est manifestée que le Seigneur peut dire « Tel est l'homme selon mon cœur ». Ce n'est pas que nous avons atteint la perfection. Lorsque une personne choisit de s'engager dans un métier, dans un emploi, pour lequel il a suivi une formation pendant des années, il a fait des stages qui ont confirmé son choix et son désir de vraiment s'investir et de s'orienter dans cette voie. Parce que c'est ce qui convient à son cœur. C'est ce qui convient au mode de vie qu'il aimerait bien avoir. Et lorsque le Seigneur lui fait grâce d'entrer dans cette vie qu'il a, pour laquelle il a travaillé en ayant ses diplômes et tout ce que Dieu lui a donné, ce n'est pas qu'arrivé dans cet emploi que tout soit parfait. Il y a des gens qui ont dévoué leur vie pour être des chirurgiens, des neurochirurgiens. Il y a d'autres qui ont fait ce qu'il fallait pour être des infirmières. Et elles aiment leur travail. Mais ce n'est pas parce qu'elles aiment leur travail que les conditions de travail sont parfaites. Mais ce travail correspond aux attentes de son cœur. Elle se lève le matin en ayant la joie d'aller s'occuper des malades pour lesquels elle a consacré ses études. Mais ce n'est pas dit que sur le lieu du travail, tout soit parfait. Mais c'est le travail selon son cœur. Et lorsque le Seigneur dit, l'homme selon son cœur, ce n'est pas que le Seigneur attende la perfection, puisque nous avons déjà échoué. Mais que sur un regard général, il trouve dans cet homme-là les caractéristiques qui montrent la nature de Jésus. Dans Romains 8, 29, il est écrit que nous sommes prédestinés à être semblables au Fils de Dieu. Et même si les choses ne sont pas parfaites, mais les dispositions de cœur que le Seigneur voit et trouve en nous correspondent à ses attentes. Alors même s'il y a une imperfection, le Seigneur est disposé à nous aimer tels que nous sommes, à nous utiliser tels que nous sommes, de la même manière que l'infirmière, même si toutes les conditions ne sont pas réunies à la perfection, elle se plaît à se rendre sur son lieu de travail. Il y a des petites choses qui ne vont pas, mais ces petites choses-là ne représentent plus des obstacles pour faire son travail et pour aimer son travail. Même s'il y a des imperfections en nous, ce n'est plus un obstacle pour Dieu, pour faire de nous ses enfants, pour faire de nous ses serviteurs, pour faire de nous ses disciples. Nous lisons la parole de Dieu dans le premier livre de Samuel, au chapitre 13. 1 Samuel, chapitre 13. Nous lisons à partir du verset 1er. 1 Samuel, chapitre 13, verset 1er. Saül était âgé, nous ne savons pas, lorsqu'il devint roi. Et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Donc même si c'était peut-être nouveau, la Bible nous dit qu'il avait déjà régné 2 ans. Le Seigneur, pour que ses disciples aillent en mission et fassent l'œuvre à laquelle il les avait appelés, il les a formés pendant 3 ans. Ce qui veut dire qu'en 2 ans, on peut apprendre beaucoup de choses. En 2 ans, on peut comprendre beaucoup de choses. Saül choisit 3000 hommes d'Israël. 2000 étaient avec lui à Michmash et sur la montagne de Bethel. Et 1000 étaient avec Jonathan à Gibea de Benjamin. Il renvoya le reste du peuple, chacun à sa tente. Jonathan bâtit le poste des Philistins qui était à Geba et les Philistins l'apprirent. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant « Que les Hébreux écoutent ». Tout Israël entendit que l'on disait « Saül a battu le poste des Philistins et Israël se rend odieux aux Philistins ». Et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Les Philistins s'assemblèrent pour les combattre, pour combattre Israël. Il avait 1000 chars et 6000 cavaliers et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Il vint camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près. Et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva, et Saül sortit au devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait ?» Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé et que des Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, « Les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. » Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Amen. Saül va être tout simplement désavoué par le Seigneur à cause de sa désobéissance. La désobéissance de Saül a été une désobéissance délibérée et soutenue par des intérêts personnels. Nous avons lu au début du chapitre que ça faisait déjà 2 ans que Samuel était roi. Donc ce n'était pas un roi qui venait de naître depuis une semaine, depuis quelques jours. C'était un roi qui avait 2 ans d'expérience. L'expérience en ce qui concerne la relation avec Dieu n'est pas forcément liée aux œuvres et aux activités qu'on va faire, mais sera principalement liée et fortifiée par la relation personnelle que nous avons avec Dieu. Une personne qui a une communion personnelle avec Dieu peut être beaucoup plus efficace qu'une personne qui a 10 ans de conversion mais qui n'a pas une vraie relation personnelle avec Dieu. Donc Saül était censé connaître le mode de fonctionnement de l'Éternel. Et voilà que les soldats sont en train de l'abandonner parce que l'armée des Philistins est trop nombreuse. Et ils sont là tout tremblants, ils ont peur d'être tout simplement terrassés. Et petit à petit, ils sont en train de quitter les lieux et d'abandonner leur roi. Et le roi dit « J'ai eu peur ». Il a eu peur pourquoi ? Il a eu peur pour sa vie. Mais il a eu peur surtout pour sa royauté. Il a eu peur pour ses propres intérêts. Et parce qu'il a eu peur, il a transgressé l'ordre de l'Éternel. Lui, il avait reçu l'onction pour être roi. Il n'avait pas reçu l'onction pour être un sacrificateur. Cette part était réservée au prophète Samuel. C'est à lui que le Seigneur avait donné l'ordre d'aller accomplir ce sacrifice-là. Et Saül, ayant peur, va faire le sacrifice pour lequel le Seigneur ne lui avait pas donné le mandat. Et à cause de cette faute, le Seigneur dit que il s'est choisi un homme selon son cœur. Il s'est choisi un homme qui le convient à lui. Et nous savons tous que cet homme-là, l'homme selon le cœur de Dieu, c'est David, dont même le nom signifie le bien-aimé de l'Éternel. C'est lui que le Seigneur a choisi parce qu'il est l'homme selon son cœur. Mais nous savons aussi que ce même David, qui est l'homme selon le cœur de Dieu, qui avait le souhait et la volonté de construire un temple pour le Seigneur, parce qu'il disait, mais Seigneur, moi, j'habite dans des palais, mais toi, tu n'as rien. Il a eu le souci pour qu'il y ait une demeure qui représente l'habitation de Dieu. Le Seigneur lui a accordé le fait que ce bâtiment soit construit. Mais il a dit, David, ce n'est pas toi qui vas le faire, parce que tes mains ont fait couler trop de sang. Tes mains ont fait couler trop de sang. Tu ne peux pas faire cette œuvre-là pour moi. Nous savons que David a eu à se repentir en ayant commis l'adultère et surtout tué le soldat, son propre soldat. Il l'a fait assassiner. Nous savons que David a fait beaucoup de fautes. Mais malgré cela, le Seigneur dit que il est l'homme selon mon cœur. Parce que lorsque nous faisons un panorama sur la vie de David, lorsque nous regardons l'ensemble de la vie de David, et que nous voyons les œuvres qu'il a faites pour le Seigneur, nous voyons la façon dont il a marché avec Dieu, nous pouvons dire qu'il est véritablement l'homme selon le cœur de Dieu. Il n'était pas question là de la perfection. Puisque s'il était question de perfection, alors David aurait tout simplement aussi échoué. Mais Dieu dit qu'il est l'homme selon mon cœur. C'est lui que j'ai choisi. C'est le choix de Dieu. Saül a été le choix de Dieu par défaut. Au moment où le peuple décide de se rebeller contre Dieu, mais n'ayant pas l'honnêteté de dire nous ne voulons plus de l'Éternel comme Dieu, ils disent à Samuel, établis sur nous un roi comme les autres nations, parce que tes enfants ne marchent pas comme toi, donc nous ne voulons pas qu'ils soient nos autorités. Établis sur nous un roi. Et Dieu dit à Samuel, écoute ce peuple-là, parce que ce n'est pas toi qu'il rejette. En réalité, c'est moi qu'il rejette. Et par conséquent, Dieu va leur donner un roi. Il va leur donner Saül. Un choix qui est fait par défaut. Mais là, il dit qu'il a choisi un homme selon son cœur. En son temps à lui. Parce qu'il l'a décidé. Sans le consentement de personne. C'est ça qui représente le choix de Dieu. Et à partir du moment où le Seigneur a mis tout en œuvre pour que le salut nous parvienne, pour nous présenter le salut et faire de nous ses enfants, c'est parce que son regard s'est tourné vers nous. Le choix que le Seigneur a fait sur David, Dieu ne fait pas de favoritisme. Il a donné son Fils unique pour nous, ce qui veut dire que nous sommes aussi le choix de Dieu et que par conséquent, celui qui a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu n'avait rien de différent de nous. Il était un homme comme nous, avec ses faiblesses, avec ses défauts, qui a fait des fautes, qui a eu à se repentir, mais qui était sincère et pur devant le Seigneur. Et celui que Dieu appelle l'homme selon son cœur, ça peut aussi s'adresser à nous. Le Seigneur peut nous voir aussi comme des hommes selon son cœur, afin que nous puissions nous maintenir dans le salut. On peut servir le Seigneur d'une certaine manière, comme Saül a servi Dieu. Mais Saül n'était pas l'homme selon le cœur du Seigneur. Il était l'homme selon le cœur des humains. Il n'était pas selon le cœur de Dieu. Nous pouvons faire des exploits. Tu peux être la plus bonne des mamans. Tu peux être le père le plus exemplaire pour tes enfants. Et ne pas être une femme selon le cœur de Dieu. Et ne pas être un homme, un mari, selon le cœur de Dieu. Tu peux être apprécié par tes collègues. Tu peux être apprécié par les membres de ta famille. Tu peux être apprécié par tes amis d'enfance. et ne pas être un homme selon le cœur de Dieu. Tu peux être un mari selon le cœur de ta femme, c'est-à-dire dans la chair. Tu peux être une maman selon le cœur de tes enfants, parce que tu les gâtes et que tu leur donnes tout ce dont ils ont besoin, tout ce qu'ils veulent. Et ne pas être une maman selon le cœur de Dieu. Alors à quoi sera servi d'être la plus belle des mamans et de finir en enfer? À quoi sera servi d'être le plus beau des maris, le plus beau des papas et de finir en enfer? Ça n'aura servi à rien. Tu auras fait le bonheur des hommes sur la terre, mais tu seras privé de la récompense de la gloire du Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur ne veut pas. On peut servir le Seigneur dans notre maison, dans l'église, et ne pas être un homme selon le cœur du Seigneur. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai servi le Seigneur. J'ai fait tout ce que je devais faire. Mais j'ai gardé l'essentiel. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Parce que c'est ça qui était essentiel. L'homme selon le cœur de Dieu, ce n'est pas celui qui atteint la perfection. Mais c'est celui qui a le cœur disposé, tout simplement à faire ce que le Seigneur attend de lui. Lorsque Jésus-Christ a vu Nathanaël, il a dit, voilà un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Nathanaël n'était pas parfait, mais c'était un homme tout simplement intègre. C'était tout simplement un homme qui craignait Dieu et un homme qui marchait dans l'obéissance. C'est quoi l'homme selon le cœur du Seigneur? Ça peut paraître impossible lorsque nous lisons les exploits que certains ont fait dans les Écritures. On se dit, mais c'est tellement loin pour nous. Est-ce qu'à un moment donné, on peut aussi être de ceux-là? Lorsqu'on lit Hébreux 11 et qu'on nous parle des héros de la foi, ceux qui ont eu l'approbation du Seigneur parce qu'ils ont accepté de faire confiance en Dieu, on se dit, mais est-ce que moi j'y arriverai? Le problème que nous avons peut être lié tout simplement au manque de foi, peut être lié tout simplement à l'imagination que nous nous faisons nous-mêmes de la vie chrétienne. Lorsque nous disons que nous sommes un corps, c'est parce que nous sommes tous des membres différents. Ce n'est pas parce que nous sommes tous pareils. Si nous sommes complémentaires, c'est parce que nous sommes aussi différents. On ne peut pas être tous pareils et complémentaires. Lorsqu'on parle de complémentarité, ça veut dire que tu as quelque chose que moi je n'ai pas. J'ai quelque chose que toi tu n'as pas. Et lorsque nous nous mettons ensemble, eh bien, nous avons quelque chose qui fonctionne bien. C'est ça être complémentaire. Mais si tu regardes un tel et tu te dis, ah, je voudrais à tout prix être comme ça, eh bien, tu es tout simplement passé à côté de l'objectif de Dieu. Ce que le Seigneur fait dans la vie d'un tel est lié à l'appel qu'il a mis sur sa vie, est lié aux dons qu'il a déposés en lui. Toi, tu as des dons qui sont différents. C'est pourquoi les épreuves que nous vivons, elles sont aussi différentes. Parce que la formation que le Seigneur a prévue pour chacun d'entre nous est liée à la particularité de ce que nous sommes aussi particuliers. Ton caractère n'est pas le mien. Tes origines ne sont pas les miennes. Donc les forteresses qui ont pu être en moi, liées à mes origines, liées à mes traditions, liées à mes cultures, ne sont pas forcément les mêmes que les tiennes. Alors forcément, les épreuves que Dieu permettra dans ta vie pour t'amener au niveau où il veut seront aussi différentes des miennes. Si nous nous comparons les uns et les autres, nous allons tout simplement passer à côté de l'œuvre que le Seigneur veut faire en nous. Et nous ne serons pas un homme selon le cœur de Dieu. Nous allons chercher à être un homme selon le cœur du pasteur, selon le cœur de l'ancien, selon le cœur de ma femme, selon le cœur de mes enfants. Ce n'est pas ça que le Seigneur veut. L'homme selon le cœur du Seigneur, c'est celui, premièrement, qui marche dans l'obéissance. Toujours avec l'exemple de Saül, le Seigneur dit ceci dans le chapitre 15, 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, à partir du verset 22. Saül va une fois de plus désobéir au Seigneur. Verset 22, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. La désobéissance est tout simplement le signe de la rébellion. Et lorsque nous ne sommes pas dans cette habitude d'obéir à ce qui est écrit, nous ne pouvons pas être comptés parmi les hommes selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu, c'est celui qui est prompt à obéir. Et comme je le dis souvent, l'obéissance n'est pas forcément liée à la compréhension. C'est-à-dire que le Seigneur n'est pas obligé de tout expliquer pour que tu obéisses. L'obéissance, c'est « je n'ai pas tout compris, mais puisque Dieu a dit, je fais ». C'est ça l'obéissance. Parce que nous sommes soumis au Seigneur, parce que nous le reconnaissons comme notre autorité, alors nous obéissons. Il a fixé des règles, quelquefois qui nous dépassent, des principes dans la vie chrétienne que nous ne saisissons pas toujours. On te frappe à la joue, il dit tu tends l'autre. Humainement, tu te dis, mais si je tends l'autre, la personne va abuser. Il va recommencer et recommencer et recommencer. Mais selon les principes de Dieu, c'est comme ça que le Seigneur lui règle le problème. Et l'obéissance, c'est je ne sais pas pourquoi Dieu permet ça. Je ne comprends pas exactement pourquoi Dieu m'a demandé ça. Mais puisqu'il est Dieu, je me soumets. Ce qui nous emmène dans la désobéissance, c'est lorsque nous voulons nous sauver de façon charnelle, comme ça a été le cas pour Saül, qui a vu l'armée en train de s'éloigner, et il a désobéi en faisant le sacrifice. Il voulait défendre son propre intérêt. Et c'est ce qui nous emmène quelquefois à désobéir. Défendre son propre intérêt, ça peut tout simplement être obéir à la chair, obéir au désir de la chair. C'est-à-dire tu défends ton intérêt de façon charnelle. Tu sais que c'est contre la loi de Dieu, mais tu le fais quand même. Ça, c'est la désobéissance que le Seigneur condamne. Je ne suis pas en train de dire que parce que tu as désobéi aujourd'hui, que tu as échoué, que Dieu va te rejeter. Comme nous l'avons dit en introduction, on parle dans un aspect général, c'est-à-dire dans les habitudes de vie que nous avons. Est-ce que nous avons pris l'habitude de désobéir, c'est-à-dire de gérer notre vie comme nous pensons qu'elle doit être gérée? Ou est-ce que nous obéissons au Seigneur et comme David n'était pas aussi parfait, par faiblesse a aussi commis des erreurs? Il n'est pas question de ça. Je parle de la désobéissance délibérée, de la désobéissance que l'on répète, parce que nous sommes un petit peu les maîtres de notre vie. L'homme selon le cœur de Dieu, c'est celui qui obéit, c'est-à-dire qui ne conteste pas les Écritures. Même lorsqu'il se retrouve dans une situation défavorable et que tu lui présentes tout simplement la Bible, il ferme tout simplement sa bouche. Il pensait avoir raison. On peut quelquefois penser avoir raison. On peut penser avoir raison de façon sincère parce qu'on n'a pas toute la connaissance. On fait des choix en pensant que c'est juste. Mais l'homme selon le cœur de Dieu, lorsque tu lui emmènes l'Écriture, il corrige tout de suite parce qu'il reconnaît qu'il n'avait pas raison. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons pas? Malgré les Écritures, c'est-à-dire qu'on est obligé d'argumenter. Le simple fait de montrer la Bible ne suffit plus à la personne de se soumettre en se disant « c'est écrit, c'est écrit ». Il faut encore le convaincre d'appliquer. Ça, c'est pas l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu, lorsque tu dis tout simplement « il est écrit », il se soumet. Parce qu'il est écrit, même s'il pensait avoir raison, même s'il pensait être dans son droit, la lecture de la parole le ramène tout simplement à sa place et il s'humilie. C'est ça l'homme selon le cœur du Seigneur. Job chapitre 2. Et nous allons voir, j'ai voulu prendre plusieurs passages des Écritures pour voir que lorsque le Seigneur parle de l'homme selon son cœur, c'est vrai qu'il parle de David, Mais nous pouvons comprendre que ce n'est pas simplement propre à David, c'est propre aux hommes spirituels qui ont compris qui était Dieu. Et nous allons voir que la fidélité ou en tout cas la marche qui a caractérisé la nature de David, eh bien, ce sont des aspects, ce sont des vertus que nous avons vues aussi chez d'autres hommes. Dans le livre de Job, au chapitre 2, Job chapitre 2, le verset 9, nous connaissons l'histoire de Job. Il a été durement éprouvé. Le Seigneur a permis qu'il soit éprouvé par le diable. Ses enfants sont morts. Ses richesses ont été prises. Et même sa santé a été atteinte. Et au verset 9, sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. L'homme selon le cœur de Dieu, c'est celui qui est fidèle. La fidélité, c'est l'obéissance dans le temps. La fidélité s'examine dans le temps. C'est la régularité à se maintenir dans un sentiment, à se maintenir dans une tâche, dans une fonction et à l'accomplir dans le temps. Et Job manifeste cette fidélité-là. Il dit à sa femme, on a reçu tout ce qui était bon de Dieu. On l'a béni, on était content. Et pourquoi maintenant, lorsque le Seigneur permettrait des difficultés, que je vais l'abandonner et le renier? C'est pas ça, être fidèle. Être fidèle, c'est redemeurer ensemble, même lorsque ça ne va pas. Même lorsqu'il y a des coups durs. C'est ça, être fidèle. Et Job dit non, on a reçu des bonnes choses de Dieu. Pourquoi maintenant que le malheur nous atteint, eh bien, on doit se rebeller contre Dieu? Et c'est ce qui nous arrive quelquefois. De tout simplement bouder le Seigneur. Lorsqu'on a le sentiment que Dieu nous a abandonné ou que l'épreuve a trop duré, on en fait à notre tête. On décide de ne plus servir Dieu. On décide de ne plus participer au culte. On reste chez soi un temps. On ne veut plus sentir tout ce qui représente la présence de Dieu. Tout ce qui est lié au Seigneur, on n'en veut plus. Parce que quelque part, j'ai un problème. Dieu m'a oublié. Il a béni l'autre. Moi, il ne m'a pas béni. Mais Job dit, mais pourquoi ça? Pourquoi maintenant qu'il y a l'épreuve, le Dieu que tu bénissais hier, tu ne le bénis plus? Quand tu chantais que tu prêchais aux autres, ne perds pas courage, Dieu est guéri. Tu as imposé les mains aux malades, tu as prié pour eux, tu les as soutenus. Et le jour où la maladie t'atteint, tu restes chez toi, tu ne veux plus entendre parler de Dieu. Tu chantais et tu louais le Seigneur lorsqu'il t'avait béni. Jésus-Christ est Seigneur. Et lorsque ton épreuve semble durer, Jésus-Christ n'est plus Seigneur. Job dit, non, pourquoi? Il dit à sa femme, tu parles comme une insensée. Tu as perdu le sens. Les choses ne sont plus claires dans ta tête. On a reçu toutes les bénédictions de Dieu. On s'est bien réjouis. Et maintenant que Dieu permet l'épreuve, on devrait l'abandonner. C'est pas ça, être fidèle. L'homme selon le cœur de Dieu. David établit roi sur Israël. C'est Dieu qui l'a choisi. Dieu l'a oint comme un général de guerre. David va remporter pratiquement toutes les guerres dans lesquelles le Seigneur l'avait envoyé, dans lesquelles il s'est engagé. Et voilà qu'à un moment donné dans sa vie, son fils Absalom lui fait un coup d'état. Il retourne les gens de l'environnement de David contre David. Il va faire croire que David est affaibli. Et beaucoup d'hommes vont se retourner contre David. David qui était oint roi par le Seigneur, qui était un vrai combattant de guerre, va tout simplement fuir devant son fils. Il va laisser le royaume. Il va laisser le royaume et partir avec les quelques soldats qui lui sont restés fidèles. Et lorsque Il est en chemin. Il croise un des descendants de la famille de Saül qui lui jette du sable, qui lui lance des pierres en lui disant « C'est bien fait pour toi, tu es un homme de sang. » David est resté calme. Les vaillants guerriers qui étaient avec lui ont dit « Seigneur, laisse-nous lui couper la tête. » David il a dit « Non, ne faites pas ça. Si il fait ça, certainement Dieu lui a envoyé de le faire. Peut-être que le Seigneur verra ma pitié. Peut-être que le Seigneur verra mon état. Et alors il me ramènera. Il me rétablira. Même dans la défaite, même dans l'épreuve, David est resté fidèle. Son fils lui a fait un coup d'état. Il n'a pas dit « Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu m'abandonnes. Je vais lutter avec les âmes pour garder mon pouvoir. » David a fui parce qu'il voulait que Dieu prenne sa défense. Il a dit à ses soldats « Laissez cet homme qui m'insulte. De cette façon, Dieu aura pitié de moi et il me ramènera. » Il a été roi, il a béni Dieu. Mais même lorsqu'on lui a fait le coup d'état, il est resté fidèle à son Seigneur. Il est resté fidèle à son Seigneur. L'homme selon le cœur de Dieu, qui n'abandonne pas Dieu à la plus petite épreuve, qui ne se rebelle pas contre Dieu à la plus petite épreuve, mais qui reste fidèle, attaché à son Seigneur, qui continue de confesser que son Dieu est Dieu, et que puisque son Dieu est Dieu, il finira toujours par le rétablir un jour. Et c'est ce qui s'est passé par la suite. David a été rétabli. Comme Job à la fin de sa vie, la Bible nous dit que Dieu l'a béni au-delà même de ce qu'il avait avant. Et Job a confessé, « J'avais entendu parler de toi, Éternel, mais aujourd'hui mon œil t'a vu, mes yeux t'ont vu. Je te connais véritablement aujourd'hui, parce qu'il est resté fidèle. » Le Seigneur lui est fidèle. Et il dit, « Je demeure fidèle. » Parce que le Seigneur ne peut pas renier sa parole. Même si nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle. Et ces hommes-là avaient compris. L'homme selon le cœur de Dieu est resté fidèle. Parce qu'il a compris que son Dieu est fidèle. Puisqu'il est fidèle, eh bien, il m'aimera toujours. Il me gardera toujours. Il prendra toujours soin de moi. Il me fera justice au moment voulu. Le Seigneur a fini par rétablir David. Alors qu'il avait les moyens de faire la guerre. Mais il a laissé tout au Seigneur. C'est ça l'homme selon le cœur du Seigneur, selon le cœur de Dieu. On peut être roi, vouloir nous imposer dans ce que nous considérons être à nous, nous accrocher dans ce que nous considérons être à nous, et ne pas être un homme selon le cœur de Dieu. Mais à quoi sera servi? Tu as conservé toute ta richesse. Tu as conservé ton héritage, tu t'es battu pour ça, tu as pris des avocats, tu as payé pour lutter même contre tes frères, du propre sang. Tu as gagné tout ça, mais tu n'es pas l'homme selon le cœur de Dieu. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Ça ne servira à rien. Philippiens chapitre 1er. Philippiens chapitre 1er, nous lisons au verset 12. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, en plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée de me susciter quelques afflictions dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. L'apôtre Paul est en prison et certains se moquent de lui, certains le raillent. Mais il dit, vous savez pourquoi je suis en prison? C'est à cause de l'Évangile. Et le fait que je sois en prison a donné le courage et la force à d'autres de pouvoir aussi prêcher l'évangile. Il y a d'autres qui sont dehors, ils sont en liberté. Je sais que ceux-là, ils ne prêchent pas Christ par souci vraiment de l'œuvre de Dieu. Ils le prêchent d'une manière qui n'est peut-être même pas agréable au Seigneur. Et il dit, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est que le nom de Christ soit prêché. Le plus important, c'est que le nom du Seigneur soit élevé. L'homme, selon le cœur de Dieu, ne regarde pas à son intérêt. Partout où l'honneur de son Dieu est élevé, c'est ça qui le plaît. Il ne cherche pas à faire de son église la plus belle église, la meilleure église. Il ne cherche pas à faire de son pasteur le plus grand des pasteurs, le plus grand des prédicateurs. Là où il sent qu'il y a la vérité, il se réjouit. Là où il sent qu'il y a la vérité, que le nom de Jésus-Christ est élevé au-dessus de tout, il s'en réjouit. Il ne cherche pas à être à la première place. Lorsqu'il voit que le travail du Seigneur est fait, il se réjouit de voir que le travail du Seigneur est fait. Ça, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Lorsque David est venu sur le champ de bataille, que les Philistins étaient opposés au peuple d'Israël, et qu'il voit là un seul homme qui se dresse devant toute une armée, un seul homme qui se dresse devant toute une armée, qui défie toute une armée, et toute une armée est dans la crainte, dans les tremblements. David arrive sur le champ de bataille et il entend un homme en train d'insulter l'armée du Dieu vivant. David ne supporte pas. Il ne supporte pas que le nom de Dieu soit touché. Il dit, mais qui est cet homme qui ose insulter l'armée du Dieu vivant? Qui est cet homme qui déshonore mon Dieu? C'était ça le souci de David. On a touché au nom de son Dieu. L'homme selon le cœur du Seigneur prend plaisir à voir que le nom de Dieu est honoré. Alors, devant David, cette situation représentait une anomalie. Une anomalie, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Il y a des personnes qui peuvent naître avec ce qu'on appelle des malformations. Avec un membre qui n'est pas bien, avec un membre qui est tordu et qui nécessite une opération. Cette malformation, c'est une anomalie. Ça veut dire que normalement, les choses ne doivent pas être comme ça. Et lorsque David arrive et entend ces choses-là, c'est une anomalie. C'est quelque chose selon les normes qui ne doit pas être comme ça. Le nom de Dieu ne peut pas se trouver en dessous d'un peuple. Pour David, c'est une anomalie qu'il faut corriger. Comme le chirurgien va intervenir pour résoudre le problème qui est anormal, David devait aussi intervenir pour résoudre une situation qui n'était pas normale. Et il est venu. Et il a corrigé les choses comme il fallait que ça soit corrigé. Goliath, je vais te tuer et je vais te couper la tête. Ce n'est pas une question de lutte ou de combat. On ne va pas se battre. Je vais simplement te tuer et que tout le monde soit au courant que le Dieu d'Israël, c'est celui-là qui est le véritable Dieu. Que tout le monde apprenne que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. David voulait rétablir cette vérité-là. C'est ça l'homme selon le cœur de Dieu. Il passe au second plan. Il est prêt à souffrir, mais pas que le nom du Seigneur soit sali. L'homme, selon le cœur de Dieu, va chercher à restaurer l'honneur du Seigneur. On nous dit partout qu'il y a des faux serviteurs. Il n'y a pas de vraies églises. Il n'y a plus de vrais chrétiens. L'homme, selon le cœur de Dieu, il va rétablir les choses afin que sa vie témoigne que vous mentez. Il y a des vrais chrétiens, j'en suis un. Parce que la vérité, c'est ça. Il va faire en sorte de servir le Seigneur dans la droiture afin de dire que vous mentez, il n'y a pas que des faux serviteurs, il y en a des vrais, j'en suis un. Il va rétablir la vérité pour que le nom du Seigneur soit élevé. C'est ce souci-là qu'avait David, c'est ce souci-là qu'avait l'apôtre Paul. C'est pas grave même si moi je suis en prison. Que les gens se moquent de moi, c'est pas grave. Mais que le nom du Seigneur soit prêché, c'est ça qui est de loin le plus important. Quand on te critique, c'est pas grave. Quand on te jalouse, c'est pas grave. Le plus important, c'est que le nom de Jésus-Christ soit élevé. C'est ça qui est important. L'homme, selon le cœur de Dieu, a ce souci-là. Que le nom qu'il porte, que ce soit ce nom-là qui soit élevé. Que ce soit ce nom-là qui soit glorifié. qu'on se moque de son église, qu'on se moque de son pasteur, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que le nom de Jésus-Christ soit élevé. C'est ça, le souci de l'homme selon le cœur du Seigneur. Le psaume 131. Et nous revenons et nous clôturons avec David lui-même. L'homme selon le cœur du Seigneur, c'est celui qui a l'humilité. David avait commis des fautes, mais il s'est repenti. Comme nous l'avons dit, l'homme selon le cœur de Dieu ne conteste pas lorsqu'on lui présente la vérité. Il reconnaît qu'il a mal fait, il s'humilie. Dans le psaume 131, cantique des degrés de David, « Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. » Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Nous en avons parlé récemment. David est roi d'Israël, roi sur tout Israël. Il est roi d'une nation, avec tous les pouvoirs que Dieu lui a donnés. Après le Seigneur, c'est l'autorité du roi manifestée en David. Mais lui, le roi, s'humilie et dit qu'il y a des choses qui sont trop grandes et trop élevées pour moi. Les fonctions qu'un homme peut avoir, élevées dans la société, l'emmènent quelquefois à accepter difficilement les conseils qui viennent des gens qui sont en dessous. Parce qu'il se dit qu'il doit apporter la réponse, la solution. Je lisais un livre qui est, La mafia médicale. C'est une femme qui était médecin et qui, je pense qu'elle n'était pas loin de se convertir et qui va témoigner des enseignements qu'elle recevait. Et elle explique par là que lorsqu'on était en médecine, à un certain niveau, on nous a fait comprendre que les médecins sont les élites de la société. Les médecins sont des élites dans la société. Ce sont des gens qui sont importants. Par conséquent, nous ne pouvons jamais laisser repartir une personne sans lui donner une solution. Même si on se trompe, même si nous ne sommes pas sûrs, on ne dit jamais à une personne « je ne sais pas ». C'est ce qu'elle témoignait. Elle dit « voilà ce qu'on nous enseignait ». Alors il nous est arrivé de dire des choses sans même conviction que ça allait résoudre le problème de la personne. Mais parce que nous sommes les élites de la société, eh bien nous sommes dans l'obligation d'apporter une réponse. C'est le piège dans lequel beaucoup de gens qui ont été élevés dans la société sont tombés. Arrivés à de grandes positions, ils ne veulent pas s'avouer vaincus. Ils ne veulent pas reconnaître qu'il y a des choses qui les dépassent. Ils ne veulent pas reconnaître que là, ils sont à un niveau où ils ne peuvent rien faire. Ils ne veulent pas s'humilier. Ils ne veulent pas reconnaître que là, ça nécessite une autre intervention. Je regardais des témoignages de personnes qui avaient vécu des morts, qui sont morts, ces personnes sont mortes et sont revenues à la vie. Alors les scientifiques disaient, jusque-là, nous pensions que l'intelligence de l'homme se trouvait dans le cerveau. Mais nous avons constaté que ces gens étaient morts. Ils étaient morts. Revenus à la vie, ils nous racontent tout ce que nous avons dit pendant leur mort, tout ce que nous faisons, ils nous le disent. Ça montre que l'intelligence de l'homme n'est pas dans le cerveau, puisque le cerveau était mort. Et sur le plateau, il y avait le journaliste qui a préparé l'émission, qui a fait l'étude parce que son propre frère avait vécu ça. Et il voulait par là, il n'est pas croyant, mais il montrait par là qu'on doit s'interroger sur après la mort. Et le médecin qui était là, qui n'avait aucune réponse scientifique à donner à ces événements, à tout prix, essayer de trouver quelque chose pour dire, oui, mais il faut comprendre que ça peut arriver que même les gens, avant qu'ils meurent, qu'ils aient des visions sur ce qui va se passer après, donc c'est possible. Mais tu le prouves comment? Il n'avait aucune preuve. Parce qu'il est l'élite. Mais se soumettre à ça, c'était se soumettre à quelque chose qui est au-dessus d'eux. Mais puisqu'il est l'élite, il va se soumettre à qui? À personne. Et c'est l'erreur dans laquelle les hommes tombent. Refuser de se soumettre parce qu'ils ont des hautes fonctions. Et là, moi, je ne me trompe pas. Je parle des médecins, mais même les médecins, c'est loin. Il y a des hommes dans leur maison. Parce que c'est le chef de la maison, il ne peut pas se tromper. Donc le conseil que la femme lui donne, non, ça ne peut pas tenir, ce n'est pas possible. C'est moi que Dieu a établi chef. C'est moi qui ai établi chef, donc la solution qu'on va mettre en pratique, c'est ce que Dieu va me dire à moi. Tu n'es pas plus que David, mon frère. Tu n'as pas autant de responsabilités que David. Ton nom ne sera jamais dans la Bible. Celui de David, oui. Mais ce David-là, il a dit, il y a des choses qui sont trop grandes et trop élevées pour moi. Ça, moi, je ne m'en occupe pas. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un au-dessus de moi qui va gérer ça. Moi, je m'humilie. C'est ça l'homme selon le cœur de Dieu. Qu'il reconnaît que là, Dieu l'a mis une limite. Et que le conseil, que la délivrance peut passer dans la bouche de son enfant, il est prêt à l'accepter. Que le conseil peut passer dans la bouche de sa femme, il est prêt à l'accepter. Mais celui qui est orgueilleux, c'est ce qu'il dit, celui qui est hautain et qui promène des regards avec orgueil. Quand sa femme lui dit, j'ai reçu ça de Dieu, il regarde sa femme. Quoi? Il rigole. Donc c'est comme si Dieu ne peut pas parler à sa femme. C'est comme si Dieu ne peut pas parler à l'enfant. Il y a des choses qui peuvent nous dépasser. Et je peux nous assurer, bien-aimé, que Dieu le permettra. Afin de te rappeler que tu n'es rien. Afin de te rappeler que tu es quelque chose. David s'est humilié. Il y a des choses trop grandes et trop élevées pour moi. Voilà l'homme selon le cœur de Dieu. Qui est disposé à écouter. Que la solution vienne d'autres personnes. Que Dieu utilise d'autres personnes pour l'aider, pour le soutenir, même pour répondre à son propre problème. Il dit, loin de là, j'ai l'âme calme, verset 2, et tranquille comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. L'homme, selon le cœur de Dieu, c'est celui qui a appris à dépendre du Seigneur. Il ne s'interroge pas sur le lendemain parce qu'il sait que Dieu pourvoira. L'enfant ne se pose pas de problème. Lorsqu'il a faim, il pleure. Il pleure. Il ne parle pas encore. Il pleure tout simplement. Et au son de sa voix, la maman sait qu'il doit manger. David dit, je suis comme un enfant comme ça. Je suis comme un enfant comme ça, à côté de l'Éternel. Je dépends de Dieu. Ma vie dépend de lui. Et je suis comme ça parce que j'ai foi. C'est pourquoi il dit, Israël, mets ta confiance en l'Éternel. L'homme, selon le cœur de Dieu, dépend du Seigneur. C'est-à-dire qu'il a foi que le Seigneur pourvoira. Et c'est encore David qui dit que l'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il a cette assurance. Et lorsque Dieu voit un homme qui ne s'inquiète pas pour demain, mais qui lui fait confiance, c'est ça qui touche le cœur du Seigneur. Ce n'est pas qu'il a tout accompli avec perfection, mais Dieu voit dans son cœur que celui-ci a vraiment fait le choix de me faire confiance. Il a peut-être douté hier. Il y a eu une épreuve. Il a peut-être douté. Mais il a relevé la tête. Et il a mis sa confiance dans le Seigneur. La Bible nous dit, Élie était un homme comme nous. Il a prié afin que le ciel soit fermé. La pluie n'est pas tombée. Et quand il a prié, Dieu a ouvert le ciel pour que la pluie tombe. Et l'apôtre Jacques nous dit, il était un homme comme nous, de la même nature que nous. Ça veut dire quoi? Mais si Élie a pu faire en sorte que le ciel soit fermé, c'est une manière de dire que si nous avons la même foi et les mêmes dispositions que Élie, mais nous ferons aussi les mêmes choses. Ça veut dire que si David a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu, ça veut dire que si nous sommes animés par le même esprit, mais nous serons aussi des hommes selon le cœur de Dieu. C'est quelque chose qui est possible. Et c'est dans cette nature-là que nous devons nous maintenir. Nous allons prêcher, d'accord. Nous allons prier, les morts vont ressusciter, d'accord. Nous allons prier, les malades vont être guéris, d'accord. Mais à la fin, où serons-nous? On peut faire tout ça sans être un homme selon le cœur de Dieu. Mais là, nous allons être perdants. Servons le Seigneur, parce que c'est un privilège de le faire. Mais n'oublions pas l'essentiel. C'est d'être un homme selon le cœur de Dieu. De travailler à la ressemblance à Jésus-Christ. C'est ça qui est l'essentiel. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Ne vous réjouissez pas de ce que Dieu vous utilise pour faire des miracles. Réjouissez-vous plutôt que votre nom soit écrit dans le livre de vie. C'est là que se trouve la véritable joie. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. L'apôtre Paul a fait toutes sortes d'exploits. Même avec avec ses vêtements, les gens étaient guéris. Il a fait toutes sortes d'exploits. C'est lui qui a emmené l'évangile jusqu'en Europe. Mais à la fin de sa vie, il ne s'est pas vanté de ça. Il dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Il n'a pas dit, Timothée, regarde le nombre d'églises que j'ai bâties. Regarde le nombre de personnes que j'ai converties. Regarde le nombre de morts que j'ai ressuscité. Il dit non, j'ai gardé la foi. J'ai gardé ce qui était essentiel. J'ai gardé ce qui était essentiel. Bien-aimés, ne nous trompons pas d'objectif. Servons le Seigneur. Servons le Seigneur. C'est un privilège d'être un enfant de Dieu, d'être un serviteur de Dieu. C'est un privilège d'être associé à l'œuvre du Seigneur. C'est un privilège que nous prenons avec joie. Mais n'oublions pas d'être des hommes selon le cœur du Seigneur. Parce que c'est ça qui nous maintiendra dans le salut. Et c'est possible. La Bible dit que nous avons été scellés du Saint-Esprit. L'Esprit qui a ressuscité Christ, c'est l'Esprit qui vit en nous. Si nous acceptons de mourir par rapport à la chair, alors l'Esprit qui est dedans de nous, eh bien, nous emmènera à manifester cette nature-là qui fait de nous des hommes selon le cœur du Seigneur. À Jésus-Christ seul soit la gloire. Amen. Seigneur, tu nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur. Mieux que nous-mêmes. Nous allons prier le Seigneur comme David l'avait fait en disant, Seigneur, sonde-moi, éprouve-moi. Regarde au-dedans de moi et dis-moi si je suis sur la bonne voie. Comme nous l'avons dit, on peut être sincère dans certaines positions, mais on peut ne pas être tout simplement dans la volonté de Dieu. Nous ne cherchons plus à satisfaire notre chair, mais à satisfaire le Seigneur. Nous allons donc nous humilier, afin si dans notre vie il y a des choses, s'il y a peut-être des choix que nous avons faits, toutes sortes de choses pour lesquelles le Seigneur n'est pas d'accord, eh bien, que le Seigneur puisse nous le révéler. Mais le Seigneur ne révèle pas pour nous amuser. Il faut que notre cœur soit disposé, c'est-à-dire, Seigneur, je suis prêt à renoncer à ça si c'est un problème pour moi. C'est dans cette disposition-là que nous pouvons prier que Dieu nous le révèle, c'est-à-dire avec la disposition d'être prêt à abandonner ce que le Seigneur nous demandera d'abandonner s'il le faut. Éternel Dieu, tu es vivant. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Seigneur. Et nous savons, Seigneur de gloire, que tu connais nos cœurs, car la Bible dit que c'est toi qui sondes le cœur et le rein. Tu connais, Seigneur Dieu de gloire, ce qu'il y a au-dedans de nous, Seigneur de gloire, mieux que nous-mêmes. Seigneur, il y a des choix que nous avons faits. Il y a des orientations que nous avons choisies. Seigneur, peut-être qu'ils ne correspondent pas à tes attentes, qu'ils ne correspondent pas à ta volonté. Seigneur, notre chair y est peut-être attachée. Mais nous avons compris ce matin, Seigneur, que le plus important, c'est d'être dans ton projet, d'être un homme selon toi. Alors si, Seigneur de gloire, toutes ces choses-là que nous avons choisies, que nous avons faites, que nous possédons, Seigneur, nous éloignent, Seigneur Dieu de gloire, de la nature, Seigneur de gloire, qui ressemble à Jésus, Seigneur, nous sommes prêts à y renoncer. Donne-nous la force d'y renoncer, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. Tu connais toutes choses, Seigneur. Éloigne-nous, Seigneur Dieu de gloire, de tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Car, Seigneur de gloire, nous voulons, ce matin, Seigneur de gloire, satisfaire à tes attentes, Seigneur, nous voulons réjouir ton cœur, Seigneur. Afin que, comme David, nous soyons aussi appelés des hommes selon ton cœur. Seigneur, c'est notre prière. Donne-nous la force d'y renoncer, Seigneur. De nous éloigner de tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Mets toutes ces choses, Seigneur de gloire, devant nos yeux. et dispose nos cœurs, Seigneur de gloire, à les abandonner, à y renoncer, Seigneur. Dans le nom de Jésus, aide-nous, Seigneur de gloire, à nous mettre en règle devant toi. Dans le nom de Jésus, nous allons prier afin que le Seigneur nous aide à demeurer dans l'obéissance. Pas l'obéissance d'un jour, mais à être constant dans l'obéissance à la parole du Seigneur. Que le Seigneur nous libère de toute forme de rébellion. Qu'il nous aide à nous humilier lorsque on nous présente l'Écriture et que nous constatons qu'effectivement, notre péché est dénoncé dans la Bible, que nous puissions tout simplement nous humilier et l'accepter. Que le Seigneur nous délivre de tout esprit de contestation. On devrait argumenter pour sauver les païens, pas pour maintenir les chrétiens dans la vérité. Mais c'est une lutte. Il faut convaincre les chrétiens que la Bible est vraie encore. Que le Seigneur nous aide à nous humilier devant ce qui est écrit, afin que nous puissions marcher dans l'obéissance. Seigneur, c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Mais nous savons aussi, Seigneur de gloire, que tu résistes aux orgueilleux et que tu fais grâce aux humbles. Seigneur, nous voulons nous humilier, afin que tu mettes au-dedans de nous, Seigneur de gloire, la volonté et la soif de t'obéir. Seigneur, devant ce qui peut paraître difficile à la chair, nous voulons compter sur ta fidélité, Seigneur, sur la force que tu nous donneras, Seigneur Dieu de gloire, afin d'obéir à ta voix. Seigneur, apprends-nous à nous soumettre à ce qui est écrit, tel que c'est écrit, Seigneur. Même si nous ne comprenons pas tout, Seigneur, nous voulons croire que la Bible est vraie. Nous voulons croire, Seigneur de gloire, que ta parole est vraie, Seigneur, et qu'elle ne se négocie pas. Aide-nous, Seigneur de gloire, à nous soumettre à ta parole et à sortir des négociations. À sortir, Seigneur de gloire, des adaptations, Seigneur de gloire, charnelles, Seigneur, des interprétations qui nous conviennent à nous. Nous voulons nous soumettre tel que c'est écrit. Regarde au-dedans de nous, Seigneur Dieu de gloire, et délivre-nous de toute forme d'esprit de rébellion, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Seigneur, aide-nous à nous humilier, une fois pour toutes, Seigneur, à accepter que la Bible, Seigneur de gloire, est la vérité, Seigneur. Beaucoup prétextent, Seigneur Dieu de gloire, qu'ils ont été trompés par des églises, trompés par des pasteurs, afin de ne pas mettre en pratique ce qui est écrit. Seigneur, nous ne voulons pas être de cela, même si nous avons été déçus par un frère, même si nous avons été déçus par un serviteur. Seigneur, nous voulons demeurer dans la réalité de la parole, Seigneur. Rester dans l'obéissance, ô Dieu. Nous voulons rester dans l'obéissance. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons prier afin que l'esprit qui animait David lorsque il a entendu qu'un homme a insulté l'armée du Dieu vivant, cet esprit de révolte qu'il a eu de vouloir restaurer la vérité, restaurer ce qui était vrai, que cet esprit-là nous anime. Il y a beaucoup trop de chrétiens qui restent la bouche fermée devant la fausseté. Ils voient la fausseté, ils disent, mais c'est pas à nous de juger. Mais c'est pas, quel sens, c'est pas à nous de juger. Ceux qui n'honorent pas le Seigneur, ou on prêche la fausseté, mais si c'est pas nous qui allons rétablir cette vérité, mais c'est qui finalement? On voit des aberrations qui se font, on dit, c'est un serviteur de Dieu, moi je ne juge pas. Mais l'acte qui est là est mauvais, on mène les gens en enfer, toi tu dis, c'est pas mon problème. David aurait pu dire, ah, c'est pas mon problème, mon père m'envoyait pour que je donne la nourriture à mes frères, je donne et je m'en vais. Non. Il est arrivé là, il a trouvé que le nom du Seigneur n'était pas honoré. Il fallait restaurer ça. Que l'esprit qui animait David nous anime aussi, afin de ne pas supporter de rester dans un endroit, dans un milieu, là où on voit clairement que le nom de Jésus-Christ est sali. Que cet esprit nous anime, afin que l'honneur du Seigneur soit rétabli. Éternel Dieu, dans le nom de Jésus, Seigneur, autrefois dans le monde, Seigneur, il nous est arrivé de nous battre parce qu'on avait insulté l'un de nos parents, Seigneur. Il nous est arrivé, Seigneur de gloire, de rendre aussi par injure, de faire violence parce qu'on avait insulté un membre de nos familles. Seigneur, mais la réalité de la famille se trouve en toi. Tu es notre papa. Nous voyons, Seigneur Dieu de gloire, par Internet, nous entendons des abominations, Seigneur. Ne serait-ce que par la prédication, Seigneur de gloire. Mais on doit restaurer ce qui est vrai. Ne pas, Seigneur de gloire, soutenir en disant que Dieu aime aussi les homosexuels, il faut comprendre. Non, c'est un péché, on le dénonce, Seigneur. Parce que ça ne glorifie pas ton nom. Seigneur, l'esprit qui a animé David devant Goliath, de restaurer la vérité, Seigneur, parce qu'il avait l'amour de la vérité. Seigneur, que cela agisse aussi en nous. Que cela agisse en nous, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur Dieu de gloire, nous complaire, Seigneur de gloire, dans des lieux, dans des situations où on se moque de toi. Nous voulons que ton nom soit honoré, que ton nom soit élevé, que ton honneur soit restauré, à commencer dans nos maisons, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur Dieu de gloire, si nous avons été des mauvais témoignages. Dans nos maisons, Seigneur, si nous avons été des mauvais témoignages devant nos voisins qui ont entendu les disputes dans la maison, Seigneur, qui ont entendu les injures. Seigneur, nous te demandons pardon parce qu'à ce moment-là, Seigneur, les gens se sont moqués. En nous voyant le dimanche matin nous présenter devant toi, Seigneur, et la semaine entendre des disputes, Seigneur. Ton nom a certainement été moqué, Seigneur, nous te demandons pardon. Aide-nous, Seigneur Dieu de gloire, à restaurer cela, Seigneur, afin que par notre façon de vivre, que par nos familles, que par nos maisons, Seigneur Dieu de gloire, les peuples louent ton nom, Seigneur. C'est pourquoi il est écrit dans Matthieu 5, 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin que voyant vos bonnes œuvres, ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Seigneur, aide-nous à faire luire la lumière, Seigneur. Comme tu dis, on ne met pas la lampe sous le boisseau, sous la table, Seigneur, mais on le met sur la table afin qu'elle éclaire. Nous sommes la lumière du monde, Seigneur. Aide-nous, Seigneur de gloire, à restaurer cela. Nous avons été des mauvais témoignages, Seigneur, peut-être même auprès du banquier, en gérant mal l'argent, Seigneur Dieu de gloire, constamment dans le découvert, Seigneur. Par quelle porte on va évangéliser le banquier après? Lorsqu'il voit les dépenses, Seigneur de gloire, dans les choses secondaires qui nous emmènent à vivre à perte, Seigneur. Nous avons confessé que tu es le Dieu qui pourvoit. Et notre vie dépend du banquier. Oh Dieu, pardonne-nous. Accorde-nous la sagesse, Seigneur, pour être des bons gestionnaires. Apprends-nous à vivre dans le contentement, Seigneur. À nous rassasier de ce que toi tu nous donnes, Seigneur. À nous suffire de cela. Seigneur, nous reconnaissons que bien souvent à cause de nous, ton nom n'est pas honoré, Seigneur. Mais toi, tu ne te lasses pas de pardonner. Pardonne-nous ce matin, Seigneur. Non pas à cause de nos œuvres, mais à cause du sang de l'agneau, à cause de Jésus, Seigneur. Oui, Seigneur de gloire. Change mon cœur, Seigneur de gloire. Purifie-nous, Seigneur. Alors nous serons purs.